tous les soirs. Amélie Perrier pour le journal. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi commence dans le réservoir de votre voiture.
Les prix flambent de nouveau aux stations essence. Un dossier explosif pour l'exécutif à l'origine des gilets jaunes. Les députés s'en mêlent. À droite, on demande une réforme des taxes. Et ça tombe mal pour le gouvernement qui pensait mettre un terme à la colère sociale grâce à ces mesures. On a refait les comptes. Il y aura des perdants. Istanbul va revoter. Le président Erdogan ne supporte pas l'échec de son candidat aux dernières municipales. Il obtient une nouvelle élection. Le sable est surexploité sur la planète. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Et puis le foot européen se dispute à propos de la réforme de la Ligue des Champions. La pluie, elle revient demain. Météo à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
À 18h15, un jour dans le monde au Bénin. Ce soir, ce pays où que l'on croyait épargné des violences djihadistes. Ou est-ce que c'est cela d'ailleurs la vraie raison de l'enlèvement apparemment de deux Français le 1er mai dernier? Est-ce que, comment surtout, le terrorisme depuis le Mali descend, se répand dans toute l'Afrique de l'Ouest? On en parle ce soir avec notre invité. Nous sommes également en Autriche et vous verrez comment on a là-bas dénucléarisé. Et puis 19h20, le téléphone sonne. 7 mai 2017, 7 mai 2019. 2 ans de présidence Macron et 1 an 2 surtout particulièrement chaotique. Plus rien ne sera plus comme avant sans doute, mais à quoi va ressembler l'an 3? Hier, les partenaires sociaux, des élus sont revenus autour de la table. Changement de cap, changement de méthode. Est-ce que cette pente est remontable pour le président? Et comment? Parlons-en ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc l'étincelle qui peut faire exploser de nouveau la colère.
Les prix des carburants, on se souvient que c'est leur hausse et la fiscalité sur l'essence qui avait enfanté les gilets jaunes. Après un hiver plus clément, la fièvre reprend à la pompe. Le prix du sans-plomb 95 atteint son plus haut niveau depuis 6 ans. Le diesel flambe lui aussi. Les cours mondiaux du pétrole s'envolent. Et se pose la question des taxes sur le carburant. La droite n'a pas manqué d'interpeller le gouvernement sur le sujet cet après-midi à l'Assemblée nationale. Au micro d'abord, le député LR Vincent Descoeur.
Depuis le début de l'année, les prix des carburants sont repartis à la hausse et en passe d'atteindre aujourd'hui des niveaux records, ce qui suscite l'inquiétude légitime de ceux qui n'ont pas d'alternative à l'utilisation quotidienne de leurs véhicules et ne peuvent pas se contenter de réponses au long terme. Si le gouvernement n'a pas la maîtrise des cours du pétrole, il a par contre le pouvoir de moduler les taxes ou de les plafonner pour ne pas rajouter à la flambée des prix.
Et ce n'est pas un problème de taxe, c'est un problème de dépendance au pétrole, dit la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Le principe, c'est de se désintoxiquer du pétrole, dit aussi la députée LROM Barbara Pompili, présidente de la commission du développement durable.
On a enlevé la fameuse taxe carbone, enfin on a enlevé la hausse de la taxe carbone, et ça ne résout rien. Parce que de toute façon, il y a une hausse tendancielle du pétrole, on en est dépendant et on ne maîtrise pas ça. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est avoir moins besoin du pétrole. Donc au lieu de penser sans arrêt à essayer de faire des taxes flottantes, etc., faisons en sorte d'avoir moins besoin du pétrole. Là, on a une loi sur les mobilités qui est en train d'arriver, qui va permettre d'apporter des solutions aux gens pour qu'ils aient moins besoin d'aller faire le plein de leur voiture. Voilà, ça c'est du concret. Et ça, ça pèsera directement dans le portefeuille des gens, là, maintenant, tout de suite. Quand on arrêtera d'importer du pétrole, on ne sera plus dépendant des prix du pétrole, c'est le béaba.
Barbara Pompili, des propos recueillis à l'Assemblée nationale par Maxence Lambrecq. En tout cas, cela tombe mal pour le gouvernement. Il pensait tourner la page de la colère jaune. Ce matin encore, le Premier ministre assurait le service après-vente des mesures d'urgence. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
On va tenter de refaire les comptes avec vous. Édouard Philippe affirme que le pouvoir d'achat va augmenter de 2% en moyenne par habitant. Un gain de 850 euros sur l'année par ménage, dont 390 euros qui découlent des mesures annoncées en décembre. Alors ce sont bien des moyennes, Laurent, il va y avoir des gagnants et des perdants.
Hein. L'essentiel, oui, de ces mesures bénéficiera principalement plutôt aux actifs et aux salariés les plus modestes. Pour atteindre ces 390 euros de mesures gouvernementales, il faut cumuler la prime d'activité réévaluée de 100 euros, réaliser plusieurs dizaines d'heures supplémentaires sans impôts ni cotisations, toucher la prime exceptionnelle de fin d'année, un portrait robot un peu caricatural, car ces mesures de pouvoir d'achat prises une par une toucheront bien à plusieurs millions de ménages français, mais il faut cumuler en réalité statistiquement 3 milliards d'euros redistribués en heures supplémentaires, 3 milliards de primes d'activité, 2 milliards versés en primes exceptionnelles par les entreprises. Cela fait bien en moyenne près de 400 euros de pouvoir d'achat de plus par ménage, mais seulement en moyenne.
Et Édouard Philippe, lui, il annonce un total de 850 euros. Si je compte bien, il reste quand même 460 euros de gain de pouvoir d'achat en moyenne, toujours. Et là, ils viennent d'où ces 460 euros?
Alors, c'est là que le calcul devient réellement statistique et pas forcément très concret. Ces 460 euros de gains sont basés sur l'évolution globale des salaires en 2019, portée par une hausse des prix, une inflation qui resterait modérée cette année, une taxe carbone également en retrait pour 2019. Statistiquement, les économistes avancent ce gain de 460 euros de pouvoir d'achat supplémentaire. Mais il s'agit bien pour le coup de prévisions qui ne tiennent pas compte, par exemple, des dépenses supplémentaires de ménage qui pourraient augmenter cette année, avec encore une fois un prix du pétrole qui repart à la hausse depuis plusieurs semaines.
Et dernière inconnue dans l'équation, Laurent, on ne sait toujours pas comment on finance tous ces gestes du gouvernement estimés entre 17 et 20 milliards d'euros. On les trouve où?
Alors c'est la question, c'est une question éminemment politique. À Bercy, on se gratte la tête pour savoir quelles décisions seront prises par le gouvernement. Difficile de faire payer ces 17 milliards uniquement aux entreprises. Les économistes proches d'Emmanuel Macron avancent l'idée de desserrer une nouvelle fois l'étau budgétaire et de laisser filer peut-être les déficits.
Merci Laurent Kramer du service économie de France Inter. Une prise d'otage près de Toulouse. Un homme armé s'est retranché dans un bureau de tabac de Blagnac il y a un peu plus d'une heure et demie. Il retient 4 personnes à l'intérieur selon le parquet. Le raid est sur place. Les autorités demandent aux riverains de rester confinés chez eux. Un ancien premier ministre socialiste pour soutenir la liste de Raphaël Glucksmann aux européennes. Bernard Cazeneuve se rallie au cofondateur de Place Publique dont la liste est appuyée par le PS. L'ex-chef du gouvernement de François Hollande participera à un meeting à Lyon le 16 mai. Le Royaume-Uni, lui aussi, prépare ses élections européennes. Malgré le Brexit, les Britanniques vont voter le 23 mai, en premier en Europe. Quelle ironie. La chef du gouvernement Theresa May avait promis d'annuler le scrutin si un accord de sortie de l'UE était adopté. Mais aujourd'hui, le vice-premier ministre estime qu'il n'y a plus le temps pour ça.
Et on en vient à l'actualité à l'étranger, à Istanbul, où l'on va revoter.
Et c'est déjà une victoire pour le président Erdogan, car il n'a pas digéré l'échec de son parti lors des dernières municipales à Istanbul, où il est né, où il a été maire lui-même. Le Haut Conseil électoral a invalidé l'élection et convoqué un nouveau vote le 23 juin. Un putsch contre les urnes, s'insurge l'opposition, qui se représentera malgré tout. Dans les rues d'Istanbul, notre correspondante Anne Handlower a rencontré des électeurs entre déception et colère.
Assis devant son commerce de fruits secs, Hasan Bozoglu le reconnaît avec amertume. Il ne s'attendait pas à ce que le Haut Conseil électoral annule la victoire d'Ekrem İmamoğlu, le candidat de l'opposition pour lequel il avait voté.
Cela fait 70 ans que des élections libres ont lieu en Turquie et jusqu'ici, les perdants avaient toujours accepté leur défaite. C'était ce qu'il restait de plus précieux à notre démocratie. Là, je suis sous le choc. Je ne comprends pas pourquoi le Haut Conseil électoral a fait ça. Il n'aurait pas dû salir la légitimité de notre système électoral. Maintenant, comment les gens vont-ils avoir confiance? À chaque nouvelle élection, il y aura toujours un soupçon.
Aysel, une enseignante à la retraite, est elle aussi en colère. Pour elle, le plus incompréhensible est que les Stambouliotes avaient voté 4 fois le 31 mars. Pour le maire de la ville, celui de leur arrondissement, celui de leur quartier et le conseil municipal. Mais seule l'élection du maire d'Istanbul a été annulée.
Soit on annule tout, soit rien. S'ils avaient tout annulé, j'aurais dit « D'accord, il y a peut-être vraiment eu des irrégularités. En fait, le pouvoir veut juste annuler l'élection qu'il a perdue. Mais je suis sûr que l'opposition va gagner à nouveau, car les gens sont en colère. Nous sommes en train de perdre notre démocratie, on ne peut plus parler librement. »
Une chose est sûre, Recep Tayyip Erdogan fera tout ce qu'il peut pour l'emporter le 23 juin, car une nouvelle défaite serait une catastrophe pour lui. Un endroit Istanbul, France Inter.
Et l'annulation de la municipale dénoncée jusqu'en Allemagne, le chef de la diplomatie Heiko Maas regrette un manque de transparence, une décision incompréhensible. Un soulagement en revanche pour les deux journalistes de Reuters libérés en Birmanie après 16 mois de prison. Ils avaient été condamnés pour avoir enquêté sur les persécutions des Rohingyas, la minorité musulmane. Ils bénéficient aujourd'hui d'une amnistie présidentielle. Un soulagement, mais une situation toujours aussi critique pour la presse dans le pays. Catastrophique même, dit aujourd'hui le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. L'organisation Reporters sans frontières classe la Birmanie au 138e rang sur 180. Elle a reculé de 7 places en 2 ans. Le calvaire des populations en Syrie, les combats ne sont pas terminés contre les djihadistes dans les provinces d'Idleb et d'Alep. L'armée du président Assad et son allié russe continuent de bombarder le secteur. L'ONU estime à plus de 150 000 le nombre de déplacés en une semaine pour fuir les combats.
Voici une ressource que l'on pourrait penser inépuisable et pourtant le sable un jour, Amélie, pourrait manquer.
En France, on en consomme chacun 18 kilos par jour, sans s'en rendre compte. Le sable est la deuxième ressource naturelle la plus utilisée après l'eau, car les bâtiments en béton où nous vivons et travaillons, le verre dans lequel nous buvons, le matériel électronique, les produits de beauté, tout cela est fabriqué à partir de sable. On en surconsomme, on le surexploite, comme l'indique un rapport de l'ONU que s'est procuré Jérémy Lanche à Genève.
50 milliards de tonnes de sable sont extraites chaque année, c'est trois fois plus qu'il y a 20 ans. Le problème, ce n'est pas la rareté, mais les conséquences pour l'environnement. Moins de sable sur les plages, dans les rivières ou au fond des mers, ça veut dire plus d'érosion, plus d'inondations et plus de sécheresse. Premier consommateur, l'Asie. À elle seule, la Chine avale plus de la moitié du ciment mondial, explique Pascal Peduzzi du programme des Nations Unies pour l'environnement.
Si vous avez été en Chine dernièrement, vous pouvez voir, on a l'impression que ces grands gratte-ciel sont comme une imprimante 3D, et tellement ça va vite, ce développement. La Chine, en une année, a construit 140 000 km de route. Singapour a augmenté de 20% son territoire. Hong Kong planifie de faire la même chose. D'étendre son territoire sur la mer est quelque chose qui est évidemment, du point de vue économique, extrêmement bénéfique. Pas de problème du point de vue environnemental et social. Ça va avoir des impacts sur les rivières environnantes.
Parmi les solutions proposées, une meilleure traçabilité pour éviter le phénomène de trafic, le recyclage de la ressource et surtout une meilleure utilisation du sable dans la construction. L'ONU cite en exemple le cas de la tour Burj Khalifa de Dubaï, dont 30% de l'espace est toujours inoccupé. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
La France, déjà championne au mondial de rugby, elle est le pays qui envoie le plus d'arbitres à la Coupe du Monde qui se joue cet automne au Japon. 4 Français sur les 12 retenus. Les arbitres sont sélectionnés au mérite. Ils se répartiront là les 48 matchs du mondial. Coup d'envoi le 20 septembre et la finale, c'est le 2 novembre. Du foot, ce soir, demi-finale retour de la Ligue des Champions. Liverpool reçoit Barcelone, vainqueur à l'aller 3-0. Et demain, l'Ajax Amsterdam accueillera Tottenham. Mais en marge de la compétition, se tenaient aujourd'hui des rencontres cruciales pour l'avenir de la Ligue des Champions. Les 250 clubs européens se réunissaient à Madrid, parmi eux 19 français. L'UEFA veut instaurer un système où la participation des plus gros clubs serait quasi garantie. Un entre-soi au détriment des clubs moins prestigieux et donc au détriment aussi de l'intérêt des championnats nationaux. L'opposition s'organise contre cette réforme. Didier Quillot, le DG de la Ligue de foot professionnelle, la LFP, a préparé ses arguments.
Il y a eu une étude faite par KPMG, cabinet d'audit dans le monde, sur l'impact que pourrait avoir une telle vision sur la Liga. On a passé plusieurs heures, près de 4 ou 5 heures, à montrer des chiffres. Donc c'était une réunion où c'était pas des déclarations à l'emporte-pièce, mais des données depuis 26 ans. Et on a vu qu'en particulier, pour les 14 plus gros clubs d'Europe, qui ont reçu en 26 ans 7 milliards d'euros, avec le projet ou la vision telle qu'elle est aujourd'hui exprimée, ils pourraient recevoir le même montant en 6 ans. Donc les championnats domestiques ne peuvent pas être les perdants d'un projet quel qu'il soit.
Didier Quillot, le patron de la LFP, champion du box-office cette fois, le film Avengers Endgame pulvérise tous les records. Les aventures des super-héros Marvel ont dépassé le cap du milliard de dollars de recettes en 5 jours, dont plus d'un tiers rien qu'en Chine. C'est la correspondance de Dominique André.
C'est la Chine qui a eu l'honneur de l'avant-première avant la sortie aux États-Unis. En quelques jours, Avengers Endgame a enregistré le meilleur lancement d'un film étranger dans l'histoire du box-office en Chine. Les Chinois, qui sont passionnés de grands films à effets spéciaux, ont profité de 4 jours de vacances officielles pour la fête des travailleurs pour aller au cinéma. Le succès commenté par le critique Bomi de la chaîne privée Des Commandes, qui n'est pourtant pas enthousiasmé par le film, mais son podcast est l'un des plus écoutés en Chine.
Ce qui fait plaisir aux fans chinois, c'est d'avoir vu le film avec 2 jours d'avance sur les Américains. Le premier samedi, le film a atteint 80 millions de dollars de recettes. Sur la qualité du film, je lui donne 6 sur 10. C'est très basique. Je suis content de l'avoir vu, mais il est loin d'être parfait. Je conseille tout de même aux fans d'aller le voir.
La Chine possède plus de 40 000 salles de cinéma, soit plus que les États-Unis. Le nombre de salles devrait progresser encore dans les années à venir. C'est donc un Eldorado qui attire la convoitise des producteurs de cinéma étrangers. Pékin, Dominique André, France Inter.
Voilà pour le cinéma. Le Goncourt du premier roman remis aujourd'hui à Marie Gauthier pour Cour vêtue, publié en janvier chez Gallimard. C'est un récit court, sensuel sur le désir. On y revient dans le journal de 19h. Mais ne divulgâchons pas le programme à venir. Oui, ce verbe existe. Il fait partie des nouvelles entrées du Petit Larousse illustré Cuvée 2020. Divulgâcher, c'est raconter la fin, un petit peu comme Game of Thrones que vous me disiez là, Fabienne.
À la fin, le mort. Donc c'est ce que je vous ai dit.
Bon, allez, d'accord, on le dit pas.
Ça fait mal.
Faites un peu votre adolescente aussi parfois, Fabienne,
hein,
quand les adultes se prennent pour des ados. Ubérisé, bore-out, deep learning, voilà les nouveaux mots et leurs définitions, c'est à lire sur franceinter.fr.
Eh bien, merci beaucoup Amélie Perrier pour la peine, vous reviendrez dans Un jour dans le monde.